Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alex Régenval à votre compagnie. Je te salue, Hugues Léger, en direct du Parc Jarry. À mine de rien, là, il nous reste de moins en moins d'épisodes. C'est peut-être, je sais pas, là, avant-dernier, peut-être. Ouais. Puis après ça, ce sera la revue de l'année. Là. Mais on arrive à la fin de la quatrième saison déjà de Sur la ligne. Regardez ça, là, on a fait déjà plus de pas mal d'épisodes. Là. J'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est plus de 200 épisodes là, déjà là, complets parce que la première saison, c'était comme une saison un peu écourtée. Là. Mais non, c'est vraiment déjà une belle aventure sur la ligne. Parlant de belle aventure, je vais prendre 2 secondes. Pour souligner la belle victoire des Alouettes hier, oui. Au moment où on enregistre. C'est quand même un moment historique, là, et Dieu sait que je suis le premier à dire que je veux qu'on parle plus de tennis, mais je pense qu'hier, c'est un beau moment qu'on a vécu, là, tous les Québécois ensemble, je pense, puis tous les Montréalais ensemble, parce que c'était l'équipe du Québec, puis l'équipe, je pense que ça a été bien représenté, d'ailleurs, à la fin, dans les commentaires de Marc-Antoine de quoi, je ne sais pas si tu as vu ça.
Oui.
Mais non, félicitations aux Alouettes. As-tu écouté le match?
J'ai vu la fin du match, je me promenais entre tout le monde en parle et la fin du match, mais oui, on est champion. De ramener un trophée à Montréal en ce moment, ça fait du bien. C'est une victoire qui était inattendue. On est vraiment, vraiment fiers. Je mets dans le mix aussi notre victoire en Billie Jean King Cup il y a 2 semaines avec Leila Fernandez de Laval qui a pris le leadership de l'équipe. C'est une belle fin d'année pour nos sportifs à Montréal. On peut être très fiers. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde au défilé de la Coupe Grey ce mercredi. Et la Coupe Davis qui commence demain avec 3 Québécois. Je ne sais pas, il y a une fibre québécoise qui vibre en moi en ce moment. Puis je pense qu'on peut dire merci aussi à Pierre-Carl Péladeau pour le rôle qu'il a joué dans la reprise des Alouettes et comment il a géré aussi en tant que président là, la destinée de cette équipe-là avec des gens très compétents en place. Donc, je sais pas, c'est une belle fin d'année quand même pour le Québec.
Ben, ce qui est certain, c'est que c'est une belle histoire de rédemption, cette histoire-là, parce que bon, il n'y avait pas d'organisation, puis littéralement, il n'y avait pas d'organisation là, au début de la saison.
L'équipe est en tutelle.
Ouais. Et je pense que c'est une des belles histoires d'équipes sous-estimées, certainement, là, dans les dernières années, dans le monde du sport, tout sport confondu. Ouais. Ça, c'est sûr. Hey, Hugues, il y a quelque chose que je veux te dire. J'en ai pas parlé parce qu'on se parle beaucoup hors d'onde, mais on se parle surtout business souvent. Là. Ouais. Ma mère a fait encadrer la photo de toi, moi, puis Billie Jean King, puis j'allais juste à côté de moi sur mon bureau, parce que c'était une photo qui était simplement numérique. Elle a décidé de me faire un cadeau le jour de ma fête, puis elle m'a fait encadrer cette photo-là. Fait que j'étais à côté de moi.
Une photo de moi, mais écoute, je suis touché. C'était un beau moment. Pour moi, c'est une photo mémorable, là, toi et moi avec Billie Jean King. Pour un fan de tennis, puis toi, je sais à quel point tu admires Billie Jean King, et moi aussi. Ah, ouais. C'est un moment marquant de notre vie de commentateur et amateur de tennis.
Ben, tu sais, mon travail, c'est de côtoyer, de travailler avec des athlètes professionnels de haut niveau. J'en ai vu plus qu'à mon tour. Là. Je suis rarement starstruck, comme on dit. Et Billie Jean King, ça a été émotif. Et là, qui plus est, un an et demi plus tard, après cette rencontre-là, le Canada est champion de cette prestigieuse coupe, championne du monde, je tiens à le rappeler, là, même si on en a parlé en masse la semaine passée. Et on va parler de ce qui va s'en venir aussi du côté de la Coupe Davis. Ouais. Il y a beaucoup. Le Canada, c'est intéressant. Et je te dirais que tous les matchs des quarts de finale, là, je regardais ça en préparant l'épisode, il n'y a pas beaucoup d'affrontements où je serais prête à gager beaucoup d'argent sur le gagnant. Là. Je pense que le Canada a l'affrontement le plus intéressant. En tout cas, le plus simple, a priori.
Ouais.
On y reviendra, parce que je veux qu'on parle des finales de l'ATP. Bon, une fois de plus, Novak Djokovic est roi et maître. Il est maintenant seul au sommet avec un 7e titre à ce prestigieux tournoi qui est, bon, ni plus ni moins que les séries éliminatoires là, du tennis international. Et puis, Novak Djokovic qui, en dépit d'un parcours où il aurait pu se faire sortir dans le tournoi à la ronde, ben, quand même termine avec le trophée au bout de la ligne.
Quelle saison incroyable pour Djokovic. Écoutez, c'était son 7e gain au final de fin de saison. C'est le Masters des Masters. Appelons-le comme ça. Là. Il y a les Masters 1000, mais c'est 8 meilleurs joueurs qui se retrouvent en fin d'année. C'est quand même un tournoi qui est très, très prestigieux. il termine, écoute, il conclut son année avec une 400e semaine à la place de numéro 1. Juste pour mettre en perspective, là, 400, le deuxième, c'est Federer à 310, 90 semaines de moins à la position numéro 1. Nadal, 209. Djokovic est dans une ligue complètement à part maintenant, là, au niveau des chiffres, c'est juste incroyable. Et comment il a gagné sa demi-finale, 6-3, 6-2 contre Alcaraz, et la finale, 6-3, 6-3, il a fait, il a tranché mince et Alcaraz et Sinner, numéro 2 et 3. Écoutez, on avait les quatre meilleurs joueurs dans le carré d'as, en plus avec Medvedev. C'était un très, très haut niveau, là, demi-finale et finale, mais Djokovic a montré qu'il est dans une classe à part. Il a bien géré son calendrier. Il est arrivé reposé. On a souvent parlé depuis le US Open. Il n'avait pas joué beaucoup. Il vient à Paris. Il gagne. Il se retrouve après ça au Masters. Et il gagne les finales de l'ATP. Tout simplement exceptionnel. Et je conclue sur les chiffres là, rapidement. Donc, 98e titre. Il se rapproche à 5 titres de Federer à 103 et de Jimmy Connors à 109. Je pense qu'il va rattraper Connors. Et je pense que le prochain chiffre qu'il a en tête, c'est 109 là, pour vraiment être au sommet du nombre de titres gagnés. Et on sait que bon, il aura complètement réécrit le livre des records. Fabuleux ce que Djokovic a accompli. Fabuleux.
Oui, il est encore presque tout seul sur sa planète. Là. Évidemment,
à 36 ans, Alex.
Oui, exact. C'est ça qui est fascinant. Tu sais. Puis, il reste absolument exceptionnel. Puis, oui, les autres pousses, les Medvedev, les Sinner, là, tout ça, les Carlos Alcaraz, qui peut-être, bon, sont plus sérieux prétendants, mais encore une fois, Novak aura eu la meilleure année. Et honnêtement, son année n'est peut-être même pas finie. Peut-être qu'il va aller chercher un titre à la Coupe Davis parce qu'il sera là, Novak Djokovic. On en parlera un peu plus tard. Mais force est d'admettre que la passion est encore là. Il est encore au sommet de son sport. Et bien, franchement, s'il est comme les Federer, alors qu'il va aller chercher quelques titres Grand Chelem, alors qu'on ne s'y attend plus, Colin, il va peut-être bien se rendre à 30. Là. Ça n'a pas de sens là, ce qu'il est en train de faire. Puis, t'as beau l'aimer, pas l'aimer, il faut respecter ce qu'il fait sur le terrain parce que c'est absolument, absolument spectaculaire ce qu'il réussit à faire. Moi, j'avais prédit Sinner, toi aussi, comme champion, si je ne me trompe pas, on est passé très proche. Parce que d'un, il a atteint la finale. De deux, il avait battu Novak dans le tournoi à la ronde. Ouais. Et de trois, s'il avait, je ne sais pas, eu une malencontreuse blessure contre Rune dans le tournoi à la ronde et qu'il avait perdu ce match-là, ben, il éliminait d'office Novak Djokovic, qu'il n'aurait pas retrouvé finalement en finale. Et qui sait, peut-être qu'il aurait le titre entre les mains à ce moment-là. Mais il a joué fair play, comme on dit. Et c'est pas banal, parce que même moi, là, je l'ai dit dans la conversation de groupe, là, notre conversation de groupe, là, on jase là, si Rune, si Sinner décidait de perdre là, ou de mettre la pédale un peu plus douce. Mais non, il est allé à fond et puis ça en dit long sur son professionnalisme.
Oui, ça montre vraiment son fair play à Sinner. Mais les deux jeunes, Alcaraz et Sinner, ont rendu hommage à Djokovic en disant: ça nous montre encore l'écart et qu'est-ce qu'on doit apprendre encore pour rivaliser avec lui. Les deux ont dit qu'ils étaient dans une classe à part encore dans les matchs vraiment significatifs. Moi, je suis un peu sur le cul, là, je vais dire comme ça, de sa performance, encore une fois, dans les moments importants. J'aurais aimé un match plus serré hier. Sinner qui jouait devant ses fans à Turin en plus, et la foule voulait embarquer, mais ils n'ont pas réussi à embarquer parce que Djokovic ne leur a pas laissé la chance de pouvoir se manifester trop durant le match. Mais c'est une machine de tennis, Novak Djokovic, une machine de tennis aussi, surtout dans les moments importants. C'est très impressionnant ce qu'il réussit.
Oui, c'est sûr. Il va finir avec l'essentiel des records. Là, puis ça fait déjà une couple d'années, ben, fait un bon petit bout qu'on dit qu'il n'y a plus de débat sur le plus grand de l'histoire, en tout cas d'un point de vue statistique. Il continue d'ajouter à sa légende presque à chaque tournoi.
Et Alex, je reviens sur son âge, là, c'est qu'il y a eu une de ses meilleures saisons cette année. Si on regarde les meilleures saisons de Federer ou de Nadal, il était quand même plus jeune. C'était milieu de la vingtaine, fin de la vingtaine. Mais Djokovic, à 36 ans, écoutez, il prend la tête du record là, au niveau du nombre de grands chelems gagnés. On le sait maintenant à 24. Le plus de finales de l'ATP, c'est les records qu'il a battu cette année. Un dixième Australian Open, un 40e Masters 1000. Tout ça à 36 ans. Et c'est ça qui le met dans une classe à part aussi. C'est qu'il réussi à avoir une de ses meilleures saisons en carrière à son âge le plus avancé jusqu'à maintenant. Qui sait ce qu'il fera l'an prochain à 37 ans? Mais c'est complètement exceptionnel, exceptionnel.
Ouais. Alors, belle victoire de Novak Djokovic. Le sujet principal presque cette semaine, ce sera la Coupe Davis. Parce que ben, le Canada est champion du monde et on s'apprête à défendre notre titre cette semaine. Ce sont les quarts de finale qui seront joués. Ce sera d'abord et avant tout les quarts de finale parce qu'on va jouer la suite très rapidement par la suite. Canada contre Finlande. C'est un adversaire intéressant, mais comme je te disais, j'ai l'impression que le Canada s'en sort bien d'une certaine manière là, parce que les autres match-up, quant à moi, sont plus compliqués. Du côté de la Finlande, il y aura Emil Rossovuori, qui est un bon joueur, là, qui a chauffé Félix il y a 2 ans en Australie. Il lui avait fait un très, 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 très long match. Alors, c'est un bon joueur. S'il faut que Félix l'affronte, ce sera un match piège d'une certaine manière, là, où il n'aura pas le droit à l'erreur. En même temps, de la façon dont Félix a terminé sa saison, il y a de quoi être rassuré d'une certaine manière. Maintenant, il faudra voir qui seront les autres joueurs. Tu t'attends à quoi, toi, contre la Finlande? Comment vois-tu cette confrontation-là?
Ben, je pense que de tous les quarts de finalistes, c'était le pays qu'on veut rencontrer. Là, sur papier, on est vraiment supérieur. Même si Emil Rossovuori est un très bon joueur, 71e mondial en ce moment, c'est une équipe qui n'a pas la profondeur qu'on peut avoir. Moi je suis Frank Dancevic. Là, j'ai beaucoup d'options pour les simples et pour le double aussi. Donc, je pense qu'on devrait aller chercher cette ronde-là et se retrouver en demi-finale. Félix a fait un petit commentaire hier sur les réseaux sociaux. Ils sont évidemment inspirés et challengés par la victoire des filles aussi. Ils veulent faire aussi bien que les filles. Donc, il faut conserver ce titre-là. Mais je pense qu'on est en bonne position. On a des joueurs qui sont reposés. Félix est mieux qu'il a été de toute la saison en ce moment. Il y a un certain momentum avec cette bonne fin de saison, cette victoire à Bâle notamment. Donc, je pense qu'on va gagner ce match contre la Finlande et se retrouver en demi-finale, Alex.
Qui sera le deuxième joueur? Qui sera le double selon toi?
Écoute, c'est difficile à dire. Théoriquement, le deuxième simple serait Gabriel Diallo, si on se fie strictement au classement. Gabriel qui est 136e maintenant.
Prends-tu une chance avec Milos?
Moi, je pense que Milos, si on le voit jouer, ça va être peut-être dans le double. Moi, je vois un très bon mix entre Anic et Pospisil là, sur un double potentiel. Mais encore une fois, il y a plein de possibilités. Mais clairement, le deuxième joueur de simple en ce moment... Évidemment, toujours selon le match-up qu'on va vouloir avoir au niveau de l'équipe adverse, mais encore une fois, si on s'y au classement, Gabriel est de plus en plus une valeur sûre en simple.
Ben, je pense que ce sera Gabriel et je pense qu'on va revoir, moi, les deux mêmes joueurs en double par la suite. De un, Gabriel Diallo a joué dans les collèges américains. Il a fait énormément de doubles. De deux, c'est un gaucher, un grand gaucher imposant au filet. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir et Félix et Gabriel dans le double. Même si Gabriel n'a pas, au niveau professionnel, joué beaucoup de doubles, il en a fait beaucoup dans sa carrière. Alors, je pense que ça pourrait être une combinaison intéressante.
Oui, on verra. Moi, je suis moins certain qu'on va voir Gabriel en double, mais c'est sûr que ça ferait un mix intéressant. Deux gros serveurs imposants, puis tu l'as dit, le mix droitier-gaucher, ça fait toujours une très bonne paire. On verra, mais il y a beaucoup de possibilités là, dans les mains du capitaine Frank Dancevic.
Intéressant. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, on n'aurait peut-être pas été aussi confiant, mais là, les performances de Félix nous font dire, ben, coudonc, on est en voiture, au moins passer les quarts de finale. S'il fallait qu'on passe les quarts de finale, ben, on aurait en demi-finale certainement un adversaire compliqué entre la Tchéquie et l'Australie. Moi, j'ai bien l'impression que ça va être l'Australie qui va passer ce match-up-là parce que tu as Alex de Minaur qui est là et bon, on sait à quel point Alex de Minaur est un excellent joueur. Tu vois comment cet affrontement-là, penses-tu qu'on va se retrouver devant la Tchéquie ou l'Australie? Vois-tu la Tchéquie être capable de passer l'Australie?
Non, je pense qu'avec de Minaur, avec Popirine, avec Jordan Thompson aussi, Max Purcell, ils ont une bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe, l'Australie. Là. Je pense qu'il y a plus de puissance là, et de profondeur que la Tchéquie. Bien qu'on sait que l'Edgeka est un très bon joueur. Il y avait un excellent début de saison, mais je pense que l'Australie va passer à travers.
Oui, puis ils ont Matthew Ebden qui est très bien classé en double, là, quatrième mondial présentement. en double. Alors, ça pourrait très bien favoriser. Je ne serais pas surpris si on avait un balayage de ce côté-là. Et ça donnerait un match bien intéressant entre le Canada et l'Australie. Bien franchement, là, ça donnerait quelque chose de bien le fun. Un petit demi-nord, là, Félix Auger-Aliassime, quelque part cette semaine, toi et moi, on prendrait ça. Ça nous ferait bien plaisir de regarder ça. Ouais. Il y aura l'affrontement entre l'Italie et les Pays-Bas. Et Yannick Sinner sera de cette confrontation-là, en dépit du fait qu'il ait fait la finale au final de l'ATP. C'est un match-up intéressant, ça, l'Italie contre les Pays-Bas, parce que, bon, je te dis, Yannick Sinner va être là, Lorenzo Musetti aussi va être là. On a une bonne équipe de deux joueurs de simple. Mais Talon Griekspoor et Botik van de Zandschulp, ce n'est pas des pieds de céleri non plus. C'est des gars qui peuvent compétitionner. Griekspoor, il est présentement le 23e mondial. Honnêtement, je ne pense pas que c'est un walk in the park pour l'Italie quand on regarde ce match-up-là.
Non, tout dépendra de l'état de fatigue de Yannick Sinner. On est au bout d'une longue saison. On le sait là, quand on arrive fin novembre et que les joueurs qui ont fait les finales de l'ATP, comme Djokovic et Sinner, s'engagent pour la Coupe Davis aussi. Si Sinner n'est pas à 100%, ça peut être effectivement très compliqué pour l'Italie. Tu l'as dit, Griekspoor, Van de Zandschulp aussi, top 50, où il est 52e en ce moment. C'est un bon joueur, donc on verra. Mais ça va être un match-up intéressant à surveiller, assurément.
Et là, honnêtement, je vais te surprendre, mais je ne suis pas convaincu pantoute que la Serbie va passer la Grande-Bretagne. Je regarde le match-up. Novak va être là. Novak va être là. Mais Cameron Norrie est certainement un gars qui peut battre Novak, s'il fallait qu'il joue contre lui. Jack Draper est un joueur très, très, très dynamique qui peut battre à peu près n'importe qui sur le circuit, on l'a déjà vu. T'as des joueurs comme Salisbury qui est 12e au monde en double et Skupiński qui est 3e mondial en double. Ben franchement, probablement que Novak va gagner son match. Mais ça risque de jouer au deuxième puis au troisième match. Du côté de la Serbie, on a Laszlo Djere derrière Novak, qui est un joueur très honnête, le 33e mondial. Mais honnêtement, c'est pas fait ce match-up-là.
Non, c'est ouvert. Mais encore une fois, Djokovic va aller chercher une coupe de points, c'est certain. Mais l'Angleterre là, est avec une très bonne équipe. Je ne sais pas si Draper est en grande forme. On sait qu'il a été blessé plus tôt, mais ça aussi, c'est un match-up intéressant. Est-ce que Novak va convaincre son équipe d'aller chercher une Coupe Davis? Parce qu'encore une fois, un autre record dans son qui est à sa portée, là, un autre gros trophée. On sait que c'est tout ce qui motive Novak en ce moment. Donc, il risque d'être une inspiration pour la Serbie, mais c'est un autre match-up qui est très équilibré, difficile de mettre un gagnant aujourd'hui.
Et honnêtement, s'il fallait que la Serbie se retrouve contre l'Italie en demi-finale, et retour de Sinner contre Djokovic, on s'en plaindra pas, toi, non plus, d'avoir ce feu d'artifice sous les yeux. Et qui sait si ce ne sera pas une revanche de Sinner, et elle serait douce, cette revanche-là, parce que, bon, on le dit souvent, là, c'est particulièrement prestigieux, cette Coupe Davis-là. Je rappelle, le Canada, il est champion défendant de cette Coupe-là. Et bien, franchement, je disais en introduction, le Canada a peut-être le match-up le moins bien équilibré, puis c'est peut-être qu'on est chauvin, mais de la façon dont on a découpé les autres confrontations, j'ai l'impression que le Canada s'en sort bien là, au niveau du quart de finale. Hugues, si tu le veux bien, on va faire une courte pause. Et au retour, on va parler d'un joueur qui est présentement à Malaga pour la Coupe Davis. Alexis Arnaud, lui, est passé à Drummondville. On l'a rencontré la semaine passée. On va en parler avec Abraham Santerre.
Du 25 au 29 novembre, c'est l'offre Cyber Sales à l'Hôtel Montville. Réservez votre séjour pendant ces dates et bénéficiez d'un rabais exclusif sur votre prochaine escapade à Montréal. Offre exclusive à durée limitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir, du 16 au 29 novembre, bénéficiez de 30% de réduction. Passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com.
J'en parlais avant la pause. Se disputait la semaine passée le Challenger Banque nationale de Drummondville, et qui est magnifiquement bien organisé une fois de plus par Patricia Simard, la même directrice qui était à Granby. Et bien, franchement, je suis allé faire un tour, moi. J'ai été particulièrement impressionné. C'était très beau, les installations. J'étais allé il y a une couple d'années. J'ai l'impression que ça a évolué pas mal. C'était plein pour le central, sur le central pour Alexis Gallarneau. Vraiment, encore une fois, là, quand vous avez ce genre de tournoi-là qui passe dans votre ville, vous êtes minimalement un fan de tennis, minimalement un fan de sport, allez voir ça. Là, vous êtes à 3 mètres d'athlète, complètement spectaculaire. C'est vraiment, vraiment cool. Puis Abraham Santart, tu es allé faire un tour, tu étais là ce week-end également, probablement dans tes fonctions de Tennis Canada et dans tes fonctions de fan de sport également, de fan de tennis. Comment tu as aimé ton expérience?
Ben oui, j'ai profité du week-end pour descendre dans le sud du Québec, j'appelle, parce que Jonquière, c'est assez haut. Et c'était le fun. Je suis allé vendredi soir et dimanche pour la finale. Puis dimanche, c'était salle comble pour la finale. Ah, vendredi soir aussi, super belle ambiance. Puis j'étais allé la dernière fois, je pense en 2019, j'étais tout petit avec mon père. Puis j'avais plus trop de souvenirs, mais t'avais raison, là, c'est vraiment bien fait. Puis on est sorti après le match de la finale, puis tout le monde était déjà en train de tout défaire. Là. On dirait qu'il y avait un timer, là, puis qu'il fallait que ce soit fini bientôt, un peu comme à Saguenay, parce que le lendemain, les gens recommencent à jouer au tennis au club. Là. Donc c'était vraiment un beau tournoi qui a été gagné par Zizou Berg. Est-ce que vous le connaissez, les gars?
C'est pas le gars, je pourrais pas écrire une biographie sur lui là, à brûle pour point comme ça.
Mais dis-nous, il est belge. Ouais. Il est belge, Zizou. Puis je peux pas m'empêcher de rire quand je dis son prénom, là, Zizou, en tout cas. Et il a gagné contre James Duckworth en finale. Une finale quand même chaudement disputée. Là. Berg a gagné 6-4, 7-5. Et vraiment, en deuxième manche, il allait perdre la manche, justement. Et Bergs est remonté, et ça a été vraiment du bon tennis relevé. Et Duckworth était vraiment très fâché, déçu. Il a pitché ses bouteilles d'eau, puis il avait le goût de partir de Drummondville après le match. Là.
Il n'a pas aimé le Canada, Duckworth, hein, parce que c'est le même que Gabriel Diallo avait battu dans les qualifs à l'Omnium. Et ça s'est aussi terminé par une coupe de raquettes cassées puis des bouteilles d'eau qui revolent.
C'est vrai, mais il était pas mal déçu, mais il était quand même content de la semaine à Drummondville. Il a dit qu'il a bien aimé ça. Et il y a aussi Benoît Paire hein, qui est venu. Je vais laisser Alex en parler, là. Je vais te laisser revenir là-dessus.
J'ai pas grand-chose à dire sur Benoît Paire, à part qu'il a été à la hauteur de lui-même sur le terrain, c'est-à-dire spectaculaire et divertissant. Bon, moi, je voulais faire une entrevue avec lui. Il nous a cavalièrement refusé cette entrevue, je vais dire ça comme ça. De façon générale, là, les joueurs, après match, sont obligé de parler, là, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est un règlement de l'ATP. Mais il a refusé. Mais écoute, il venait de perdre. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de prévu, là, mais c'est ça. Il a refusé l'entrevue.
Moi, j'ai entendu que juste avant sa défaite, il avait mangé un gros burger avec des frites. Puis,
et le pire, c'est qu'il est... Il est vraiment le fun à voir jouer. Ben franchement, là, j'étais content d'être sur le bord du terrain. Je travaillais en même temps, puis je le regardais jouer. Puis, Colin, pour vrai, je me déplacerais pour aller le voir jouer, là, Benoît Paire. Il est divertissant. C'est un showman qui a tellement de talent. Ouais. Son coup droit, là, il rentre là, à une vitesse débile. Il a beaucoup d'armes, Benoît Paire, mais c'est ça. La volonté, c'est pas toujours l'arme, mais je pense vraiment que c'était pas le cas dans le dernier match. Il voulait vraiment gagner ce match-là. D'ailleurs, il s'en est pris d'une certaine manière là, aux arbitres, aux juges de ligne ou à peu près tout le monde. Là. Non, c'est juste dommage parce qu'il a refusé la demande d'entrevue de façon assez cavalière, je vais le dire comme ça, mais écoute, c'est pas grave. Pas le premier qui refuse une entrevue, puis c'est pas le dernier. On s'en fera pas plus que ça, puis s'il veut venir nous jaser plus tard, ça nous fera absolument plaisir. Là. Il y a vraiment pas de rancune là-dedans. Là. C'est des choses qui arrivent.
Puis je tenais à souligner, là, il y a beaucoup de monde qui sont allés au Challenger malgré que Il n'y a eu aucun Canadien en quart de finale. Là.
C'est vrai.
Il y a eu 3 Canadiens qui se sont rendus au deuxième tour. On a Alexis Gallarneau qui s'est rendu au deuxième tour, qui s'est incliné contre Lee Tu, un Australien, qui n'est pas allé plus loin malheureusement. Il y a aussi Liam Draxel qui avait battu Steven Diaz au premier tour, qui s'est incliné aussi. Et Dan Martin qui avait réussi par abandon à gagner le premier tour. Mais on n'a pas eu plus que ça.
On va te parler d'Alexis Gallardo, Abraham. Avant de te dire merci et félicitations pour ton travail là-bas à Drummondville et merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous également. Ah ben moi, je l'ai rencontré, Alexis Gallardo, après sa défaite en quart de finale. C'est ça, quart de finale, hein?
Au deuxième tour.
Au deuxième tour, excuse. Ouais, ben ça, on descend dans ce cas-là. Je l'ai rencontré après sa défaite et puis ben, je pense qu'il était quand même, il est toujours content de nous parler. Il est tellement...
ça lui a donné la chance d'aller en Espagne plus rapidement.
C'est vrai. Ben oui, je pense qu'il partait le lendemain, là, c'est
on
ce qu'il m'avait dit.
Le week-end d'ailleurs avec Gabriel à Malaga.
Ah bon, ben voilà, voilà. Ouais. Et ben justement, on a parlé de ce match-là, de ce tournoi-là, de l'appui des fans et des voltigeurs de Drummondville notamment. Et on a parlé de ce qui s'en venait à la Coupe Davis. Je vous propose d'écouter cette entrevue que j'ai réalisée avec Alexis Gallardo un peu plus tôt cette semaine.
Alexis, premier commentaire après ce match-là. Ma première question, c'est que tu es correct physiquement?
Ouais. Je suis content d'être de retour sur le terrain. J'ai pris un petit break, mais vraiment, ça a fait du bien d'être ici à Drummondville. Je sens que mon jeu, de match en match, commence à être mieux. Donc, c'est dommage de ne pas passer aujourd'hui. C'est un bon premier set. Je pense que si je gagne le premier set, c'est un peu un match différent. Donc, c'est un peu décevant, mais ça a été quand même une belle soirée. Là.
Ouais,
je pense que c'est dans mon ADN. J'essaie de me battre jusqu'à la fin. Le joueur que j'ai joué, il est vraiment pas facile à jouer. Il a joué un bon match, donc j'ai continué de me battre jusqu'à la fin. J'ai sauvé quelques balles de set, mais finalement, ça passe à côté. Peut-être un petit peu, mais c'est aussi, tu sais, le terrain sont rapides. Peut-être un peu d'accumulation de la mousse de balles. Donc, je porte pas trop attention à ça. C'est des terrains que j'aime beaucoup. L'atmosphère est incroyable. Donc, c'est surtout sur ça que je mets l'emphase. C'est incroyable, vraiment l'accueil d'année en année. Je sens que le tennis ici à Drummondville continue de gagner en popularité, donc c'est super motivant pour moi de voir ça, puis de pouvoir donner un bon show au public de Drummondville, c'est la moindre des choses parce que l'accueil est incroyable ici.
Tu as eu l'appui des joueurs des voltigeurs aussi. Ils étaient là aujourd'hui dans les gradins. Ils sont venus plus tôt cette semaine. C'était quoi d'avoir l'appui de cette équipe-là?
C'est spécial. Moi, je suis allé les voir vendredi, puis ça a vraiment été une belle game que j'ai regardée. Je trouve que les gars, ils sont une belle gang, une belle équipe. Le coach est super, super gentil aussi, donc de pouvoir performer devant eux, c'est spécial. Puis ça m'a vraiment motivé aussi à jouer mon meilleur tennis.
Parlons rapidement de ce qui s'en vient, parce que là, écoute, à moins que je me trompe, c'est la Coupe Davis, puis tu es prêt à aller défendre ton titre.
Ouais, je pense que c'est un quick turnaround que je dois faire. Ça va être excitant de jouer pour le Canada. J'aime vraiment ça, ces événements-là. Donc, on va essayer d'aller défendre notre titre, mais ça va pas être facile. On va y aller un match à la fois.
Qu'est-ce que les filles ont fait la semaine passée? C'est une motivation de plus pour dire hey, nous aussi, on va répéter l'exploit.
Ouais, c'est sûr. Dans notre groupe, c'était la première chose. C'était de premièrement féliciter les filles et tout ça. C'est incroyable l'exploit qu'ils ont eu. Puis nous, c'est à notre tour de jouer notre rôle puis de gagner aussi pour continuer d'avoir les deux titres de champion du monde, gars et filles.
Est-ce que ça change quelque chose de retourner là comme champion du monde? L'année passée, tu sais, pour toi, c'était une expérience, mais là, tu as contribué à qualifier l'équipe avec une victoire exceptionnelle.
Ouais.
Puis tu t'en vas là comme champion du monde, ça change quelque chose?
C'est sûr. J'ai l'impression que chaque Coupe Davis est différente, autant ma première que la dernière, avec différents rôles à chaque fois. Je ne sais pas exactement c'est quoi mon rôle pour cette prochaine Coupe Davis. Donc, je suis prêt à tout. Je sens que je joue du bon tennis. Encore plus en Coupe Davis, l'atmosphère, je pense que ça m'aide beaucoup. Donc, c'est ça, j'ai aucune attente. C'est sûr, oui, on veut défendre notre titre, mais comme j'ai dit, ça sera pas évident.
En même temps, est-ce que la Coupe Davis, pour toi, aurait été game changer d'une certaine manière parce que, bon, champion du monde l'année passée, là, les grosses victoires que tu as eues cette année, tu as eu des victoires absolument exceptionnelles là, en Coupe Davis. Ça a changé quelque chose dans ta confiance de ces victoires-là que tu as eues en compétition internationale?
Je pense que oui. Je pense que le fait. Je pense que c'est surtout comment que j'ai approché cette semaine-là, comment que j'ai géré la pression, les émotions, tout ça. Je pense que ça m'a montré, tu sais, que mentalement, je continuais de faire un beau progrès. Et Hélène Pelletier qui est venue. Merci d'être venue. Yes. À bientôt. Merci d'être venue. Donc, c'est ça. C'est vraiment, j'étais fier de ma performance mentale. Le tennis, je le savais qu'il était là. Je pense qu'on l'a vu à l'Omnium Banque Nationale maintenant deux fois. Mais de finalement gagner contre un top 30 ou 40 à ce moment-là, c'était quelque chose. Puis sinon, c'est une accumulation aussi, tu sais, de Granby, autant la Coupe Davis que Columbus la semaine après. Une accumulation de bons résultats, puis de continuer de progresser, c'est encourageant pour moi.
Alexis Galarno qui a donné une entrevue une fois de plus avec un grand sourire. Il est tellement le fun d'interviewer. Puis Hélène Pelletier qui était là, qui est venue faire son tour durant l'entrevue. Ben, elle était présidente d'honneur de ce Challenger de Drummondville-là. Et puis elle est allée faire un tour dans le Boat Radio parce que les matchs étaient comme web diffusés à la radio. Et c'est Anthony Caillé d'ailleurs qui a tenu ça. Donc, je le salue. J'ai fait les bons mots. C'est une belle initiative, je pense, que du Challenger. Et puis, c'est cool qu'on puisse tenter de rejoindre les partisans d'une autre façon. Hugues, t'attends-tu à voir Alexis jouer? Comment tu sens là? Est-ce qu'il va y aller comme remplaçant? Moi, je vais être honnête avec toi, Hugues. Là, je l'ai vu jouer. Regarde, j'ai pas d'informations en interne, puis il me l'a pas dit, puis j'y ai demandé en entrevue, mais je suis pas sûr qu'il est à 100%.
J'ai ce feeling-là, moi aussi. Pour avoir discuté avec lui dans les dernières semaines, je suis pas certain qu'il va être, le premier choix pour un deuxième simple, par exemple. Là. Donc, on verra là, ce qui va arriver avec Alexis. On sait évidemment qu'il va aller pour soutenir l'équipe, puis que sa présence va vraiment être importante aussi. Comme à chaque fois. Mais encore une fois, on a le luxe d'avoir cette profondeur-là au niveau de l'équipe. Frank Dantsevic a beaucoup d'options, beaucoup de choix. Donc, on verra si Alexis est en forme, il pourra jouer et offrir une bonne performance à un moment donné, je suis convaincu. Mais on a l'équipe pour aller jusqu'au bout. On en parlait plus tôt, les gars. Je regarde le tableau encore des 8 quarts de finalistes. Moi, je verrais bien une finale 100% Commonwealth entre le Canada puis l'Australie là, qui est en bas du tableau. Excusez-moi, je parle de l'Angleterre, pas de l'Australie. Oh, ouais. Donc, on va avoir l'Australie en demi-finale.
Mais demi-finale je pense Commonwealth.
Oui, bien aussi. Mais je pense que l'Angleterre va passer en bas. Puis pourquoi pas une finale?
Ça se pourrait. Regarde, je te dis, là, on en parlait tantôt, puis on a fait l'analyse rapidement puisqu'on est pressé dans le temps. Là, ouais. Mais je ne tomberai pas en bas de ma chaise si l'Angleterre bat la Serbie en dépit du fait que Novak Djokovic est là. C'est pas fait, ce match-up-là.
Oui.
Pas fait. Abraham Santerre, merci une fois de plus de te joindre à nous. Merci pour tout le travail que tu fais pour nous. Tu ne lâches pas ton bon travail, mon beau garçon. On dit au revoir. Nous, on va faire une courte pause.
Les gars. Salut,
bye, Abraham. Nous, on va faire une courte pause. Et puis, au retour, Isabelle Etier s'est entretenue, a parlé tennis avec Karel Aimard.
Elle est une jeune retraitée comme joueuse de hockey, nouvellement directrice des opérations hockey féminin à Quartex, analyste à RDS. Elle est aussi une fan de tennis. Karel Aimard, bonjour, comment ça va?
Salut Isa, ça va super bien. C'est la première interview que je fais qui m'appelle officiellement une retraitée. Habituellement, je le disais en onde, donc merci. Écoute, il faut qu'il y ait une première à tout. Donc, retraitée, enfin. Je ne suis pas sûre comment je me sens officiellement avec tout ça, là, mais je suis très contente pour la suite des choses, là, ce qui s'en vient, ça c'est sûr.
Mais tu as tellement de beaux défis, de belles choses à faire. Puis juste pour rappeler aux gens, ceux qui te connaissent un peu moins, tu as joué justement pour les Canadiennes, tu étais dans la PWH. Ouais, là, je suis en train de mélanger la plus PWHL, qui est la nouvelle ligue, mais c'est la PWHPA, c'est très drôle. Bon, tu es aussi co-host, là, tu animes un podcast, tu es tellement impliqué partout dans le sport, dans le hockey. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase de tennis parce qu'on s'est croisés à plusieurs occasions cet été à l'Omnium Banque Nationale. Explique-moi, quelle est ta relation avec le tennis?
Écoute, c'est une relation un peu, je ne suis pas la plus grande analyste ou la plus grande connaisseuse du tennis, mais que je me considère comme vraiment une fan des sports, que ce soit féminin ou masculin en général. Puis le tennis mais, est toujours venu me chercher un peu ici et là. C'est sûr qu'on peut voir des grands athlètes quand ils viennent à Montréal. Je me souviens même quand j'étais plus jeune à la Rogers Cup là, dans le temps, qui était, j'y allais aussi. J'avais l'occasion de voir autant le tennis masculin que le tennis féminin. Puis cette année ou dans les dernières années un peu, là, c'est sûr que COVID nous a ralenti. J'essayais souvent d'y aller pour juste apprécier le sport. Je pense que je suis une grande fan d'apprécier les talents de ces athlètes-là. De les voir en action, c'est toujours plus impressionnant. La télé fait du bon, mais pour moi, de le voir en personne, là, ça donne un peu plus le charme puis l'appréciation de la vraie game puis ce qu'ils mettent, eux, dans ce sport-là, en termes d'énergie, puis d'effort, puis d'entraînement. Là, je leur lève mon chapeau à chaque fois, puis j'aime ça être là, c'est tout.
ben, je pense qu'on ressent encore plus l'émotion, l'intensité. Là, cet été, c'était les filles à Montréal. Dis-moi, y a-t-il un moment qui t'a marqué plus qu'un autre, ou une joueuse qui t'a marqué, justement?
Ben écoute, cette année, c'était dur, comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de matchs qui se sont passés, tu sais, ils ont été retardés, whatever. Il y a eu beaucoup de choses qui oui, se sont faites. Mais le nombre de parties que certaines des joueuses ont dû jouer en peu de jours ou de journées, je trouvais ça impressionnant en général. First of all, notre température à Montréal est un peu tough pour ces joueuses-là, mais j'ai vraiment aimé aller voir la finale avec notre ami Pegula aussi qui était là. Ouais. C'est sûr que c'est pas le meilleur match là, lorsqu'on regarde les échanges ou peu importe, mais j'ai apprécié ce que son parcours a été à elle plus que les autres. C'est sûr que Coco et compagnie, tout le monde était là. Il y a des joueurs que j'aurais aimé voir en finale qui n'ont pas eu la chance d'y être cette année, ou peut-être qu'on s'attendait à ce qu'ils allaient l'être. J'ai été un peu une fan sur le côté Netflix de la chose aussi, à essayer de suivre et d'en apprendre plus sur certaines de ces athlètes-là aussi. Je te dirais que ouais, le scénario était difficile, puis je pense que j'ai eu une appréciation, puis c'est dur à dire, je veux pas me pointer sur une joueuse, parce que toutes les joueuses que j'ai vues, ou toutes les parties que j'ai eu la chance de regarder, ont toutes été en vente, ont toutes été le fun à regarder. Tu sais, la finale était le fun, mais était courte, mais je l'ai aimée quand même, si je peux me le permettre comme ça.
Je pense qu'on était tous contents pour Jessica, qui a eu comme une année quand même difficile, même dans sa vie personnelle. On sait, elle avait fait une lettre ouverte justement par rapport à la santé de sa mère. Ouais. C'est une famille très impliquée dans le sport. T'es une fille de sport, tu sais, donc...
Elle vient de Buffalo, elle est sur le bord du Canada. T'sais, elle a dit, les fans de Montréalais, on est toujours en arrière d'eux un petit peu quand que ça vient à ce côté-là. La famille Pegula est très, très, très impliquée aussi dans le monde du hockey. Que ce soit universitaire ou que ce soit à Buffalo aussi et compagnie, mais le monde du sport en général, on s'entend. Mais c'était aussi une famille qui se sont impliquées même dans les ligues ou qui allaient s'impliquer avec le PWHPA et compagnie. Donc, on dirait que j'ai un petit peu un amour pour elle spécifiquement à ce niveau-là. Puis je trouve qu'elle a connu une super belle, un super beau tournoi, si je peux me permettre comme ça, une coupe. Puis, tu sais, même je suis allée voir des doubles aussi avec sa mère. Puis, c'est dommage, ben pas dommage parce qu'ils se sont sortis un peu de la compétition parce qu'elle voulait garder son énergie puis ces choses-là. Mais ouais, je pense que Jessica a eu... j'apprécie peut-être le côté underdog des fois. Puis je pense que, je sais pas si je la considère là, mais avec tout ce qu'elle a surmonté, je donnais vraiment ce petit boost-là aussi d'énergie, là, de support de ma part, ça c'est sûr.
Ben justement, dis-moi donc, y a-tu une joueuse ou un joueur, parce que bon, t'es une joueuse d'hockey professionnelle, même si bon, t'es pas dans la nouvelle ligue là, maintenant, mais je te considère de ce niveau-là. Y a-tu une athlète, justement, y a-tu une joueuse ou une joueuse qui peut te ressembler comme toi quand tu étais joueuse d'hockey versus ce que tu vois sur le terrain?
Est-ce qu'il y en a qui sont un peu juste avec les limites du sport et puis challenge un peu côté physique? Non, ben je pense que Sabalenka a été une des joueuses. Que j'ai Netflix, je vais leur donner un peu de love encore, mais que j'ai appris à découvrir aussi avec la série. Je pense que sa force, son power, c'est qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut représenter aussi, était le fun. Puis, tu sais, j'adore nos Canadiennes ici et là. J'aurais aimé ça, tu sais, qu'on puisse en voir un peu plus. Mais je pense que Je pense que c'est la force qu'elle amène, puis on en parlait justement avant avec ses services dont, en moyenne. Je vais dire en moyenne, mais là, je ne suis pas l'analyste parfaite à 180 km/h, puis qui a été réussi à toucher des services de 214. Je ne dis pas que mon slapshot était aussi fort que ça, mais je pense que le côté, côté force, puis si elle avait à jouer peut-être un peu plus physique, elle serait probablement dans mon peut-être dans ma sphère de joueuse professionnelle un petit peu. Je ne sais pas.
Bien, justement, on va. Faisons des parallèles hockey puis tennis, justement, parce que, la nouvelle ligue, il y a une grande dame, hein, l'icône de l'équité, Billie Jean King, qui est derrière ça. Tu as eu l'occasion de la rencontrer, toi?
Oui, écoute, depuis le départ, donc tu l'as mentionné un peu, j'ai été impliquée dès que la Ligue avec les Canadiennes et compagnie a fait cesser ses opérations. Dans le fond, on a créé le PWHP, l'organisation, puis je pense que c'est Kendall Coyne qui a pris le téléphone puis qui a appelé Billie Jean King pour savoir si elle pouvait nous aider à créer quelque chose qu'on voulait qu'il devienne aussi grand peut-être que le tennis féminin. C'est peut-être un... Personnellement, c'est un sport que je compare le hockey féminin et le tennis féminin lorsqu'on vient à comparer quel genre de level de hockey professionnel êtes-vous. C'est comme, tu peux pas comparer les femmes aux hommes dans le tennis, non. Puis je tiens à faire la même chose au hockey masculin ou au hockey féminin. C'est deux games différentes qui se rapprochent, je te dirais, en termes de finesse et puis d'intelligence. On appelle ça le hockey IQ puis le tennis IQ. Je vais le mettre de ce côté-là, tu sais. Mais écoute, d'avoir la grande de ce monde qui s'est joint à nous, après ça, moi, dans ma tête, les deux sports que je continuais de dire, il ne faut pas les comparer. C'est pas NHL masculin, NHL féminin. C'est deux games différentes. Allez les voir, vous allez les apprécier à leur propre façon, que j'ai toujours utilisé. Puis là, d'avoir en plus une force qui vient faire, on veut l'équité aussi, qui a été quelque chose qui a été travaillé par Billie Jean King, puis on vient de fêter les 50 ans de ça, qui s'approche à le faire en 2027 maintenant pour le tennis. Je trouve tellement qu'il y a plein de beaux parallèles avec son progrès à elle. Écoute, j'en reviens pas qu'on arrive à ça en 2027, ça a pris plus que 50 ans, que je pense que le hockey va peut-être arriver à ça. Écoute, peut-être ça va prendre un autre 50 ans. Là, c'est sûr que le côté expérience de la chose va être équitable en termes de comparaison. Les salaires, pas les mêmes, non. On s'entend du côté du hockey. Là. On parle de millions d'un bord puis de quelques cent mille de l'autre côté. Mais je trouvais ça d'une beauté incroyable. Puis pratiquement en 2020, la première rencontre que j'ai eue, je pense que j'ai même pas réalisé que c'était Billie Jean King qui était assis devant nous ou qui nous donnait les speeches à nous dire de rester ensemble, de continuer à vouloir se battre pour ce qu'on faisait, puis que ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas. Puis même quand tu y penses que tu frappes des murs, puis tu continues de frapper des foutus murs avec COVID, avec tout ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, et, je te dirais que ça a été un petit peu l'espèce de flamme qui est en arrière de nous. Là, tu sais, elle l'a fait dans un temps où les femmes n'avaient rien comparé à ce qu'on a maintenant, en plus. Puis, tu sais... Les gens me demandaient, puis me demandent des fois, si Billie Jean King est là, tu peux-tu m'introduire à elle? Je suis une grande fan, blablabla. Puis j'étais comme, my God, on a la chance de l'avoir sur nos Zooms une à deux fois par mois. On a une personne qui est en arrière de nous dedans, qui se bat pour nous. Un sport qu'elle connaissait probablement presque même pas, Isa. je dis ça comme ça, mais elle dit qu'elle voulait jouer au hockey quand elle était jeune, mais elle n'avait pas d'opportunité, puis je trouve ça incroyable. On dirait que tu te reviens et tu es comme, mon Dieu, dans quel monde je vis? J'ai une une grande femme, je sais même pas comment la. C'est une légende qu'on a eu la chance de travailler avec elle. Puis elle a pris la même passion qu'elle avait pour le tennis, puis elle l'a transférée dans un sport où elle a vu qu'on avait la même passion qu'elle, je pense. Pour que je l'ai mentionné, pour que quelqu'un coin l'appelle, puis qu'on soit assis à New York ensemble avec Ilana. Puis qu'on décide d'ouvrir un compte de banque pour partir le PWHPA avec l'Union et peu importe ce qu'on allait faire pour se battre pour où on est maintenant. C'est quelque chose qui est incroyable quand tu revis ça. Là,
c'est incroyable.
C'est pincez-moi, là, c'est dans ce niveau-là.
Puis c'est quoi, à ce jour, la plus grande leçon qu'elle t'a apprise?
Oh my God. Elle dit souvent, puis je sais pas, mais d'essayer d'être dans les premières, c'est souvent, c'est très lonely en anglais. Tu te sens seul à certains moments. Tu te sens un peu, les gens doutent. Voyons, ça n'arrivera jamais. Pourquoi vous ne jouez pas? Il faut juste que vous jouiez. Mettez-vous là-dedans. Ben, tu sais, pourquoi vous gossez sur un CBA qui est une collective bargain pour protéger les joueurs quand que tout ce qu'on veut, c'est vous voir sur une patinoire et continuer à avancer. Puis on a fait les choses de la bonne façon pour arriver à quelque chose qui va durer puis qui va continuer d'avancer pour le futur. Puis le fait que, bon, on a des investisseurs, mais le fait qu'elle, son entreprise aussi, le Building Enterprise, soit en arrière de ça, continue de partir, c'est, tu sais, la leçon de vie à travers tout ça, c'est croyez en vos rêves, croyez-y tellement que même quand les gens y croient plus, vous restez ensemble et ça va fonctionner à un moment donné, tu sais. Je veux dire, ça a pris plus que 50 ans pour elle. En 2027, on a été, comme je l'ai mentionné, on nous a fait peur que le tennis allait avoir l'équité dans les bourses.
Au niveau des 1000, des WTA 1000 et ATP 1000, oui.
Oui, exactement. À spécifier aussi.
Parce que ce ne sera pas tout à fait encore l'équité. Là. Il va y avoir encore les 500 et tout, mais on y arrive. Là.
Exact,
on y arrive.
Exact. Fait que, tu sais, c'est bon. Ça prend du temps, mais continuez d'y croire, continuez de rester ensemble. Je pense que le. Tu sais, il était, on parle de l'original 9 du départ. Bon, on était une centaine de joueurs, puis ces 100 joueurs-là, on continue d'avancer. Puis maintenant, il y a une PWHL, puis il va y avoir des choses qu'on va apprendre, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Tu sais, beaucoup de live and learn, comme on dit. Puis on se réenligne, puis on continue, mais je trouve ça, ça a été. Peut-être qu'on était un peu dramatique à penser au fait que. Arrêtez de nous dire que ça ne fonctionnera pas, on va vous montrer ça, puis ça va y arriver. Je pense que cette espèce de leçon d'être seul, mais après ça, de te revirer, puis de parler aux bonnes personnes qui t'entourent, puis qui croient avec toi, ou de t'entourer ces gens-là, fait en sorte que tu vas arriver à quelque part plus tard. Donc, la leçon était là. Même si tu te sens seul, continue d'avancer, ça va y être.
C'est une belle leçon, puis on voit comment c'est le tennis, dans le fond... Le parcours du tennis a transcendé son sport. Puis là, bon, il y a aussi la WNBA, puis là, le hockey.
NWSL, le hockey, le volleyball, même, là, il y a plein de choses qui se passent en ce moment pour le... Tu sais, on est dans un grand mouvement de sport féminin, puis on va toujours entendre les beaux petits commentaires qui viennent d'ici et là, que personne ne veut regarder rien. Mais quand on les met sur les télévisions ou les chaînes, ben les gens sont là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, venez voir les parties, venez voir les matchs, allez voir le tennis féminin, vous allez voir. Puis il y a même des gens où, je me souviens, j'étais au secondaire, puis il y a un jeune garçon, j'étais dans un sport-études hockey, puis lui, il était sport-études tennis, puis il me parlait des mêmes choses. Tu sais, tu vas voir les gars parce que c'est le power en arrière des services, puis c'est le ci, c'est le ça. Puis là, il y avait un autre gars qui disait, ouais, mais tu vas voir les filles, puis il y a des échanges de fous, puis le sport est le fun, c'est aussi excitant, blablabla. Puis, tu sais, il argumentait déjà à ce niveau-là, puis j'avais 14 ans, là, je veux dire, on était tout jeune à faire ces choses-là, puis encore une fois, aujourd'hui, je vais voir un match de la Ligue nationale, je l'apprécie. Je vais voir un match d'équipe Canada contre équipe US, je l'apprécie autant que je vais voir un match universitaire. Le talent est là, c'est des games, c'est des levels où tu fais juste apprécier ce qu'il y a sur la patinoire, puis l'excitation est là, il n'y a rien qui est manquant. Là. Tu sais, c'est de t'arrêter de comparer.
Dans fond, on n'a pas ça. Besoin de dire qu'on n'aime qu'un sport, tu sais, puis on peut pas aimer. C'est comme la musique, tu sais. T'aimes le country, t'aimes le classique, t'aimes le pop, t'aimes... Il y a chaque moment, puis c'est correct, tu sais. T'es pas obligé de choisir un style de musique, mais je pense que c'est la même chose pour les sports. Puis, ben c'est intéressant à voir. Là, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Balle de brie, tu sais.
Okay.
Je te demande, c'est des ceci, cela. Simple okay. Ou double?
Ouh, simple.
Attaque ou défense? En stratégie de jeu, parce que, tu sais, au hockey, on va jouer souvent, tu vas être à la défense, mais tu vas avoir défensif. Mais aussi au tennis, tu dois avoir des stratégies.
J'aime ça. Absolument. Écoute, j'aime je vais y aller peut-être avec mon style de jeu. J'aime le côté, j'allais dire agressif, mais c'est pas nécessairement agressif, mais le côté de challenger offensivement puis d'être dans l'attaque. Donc, c'est sûr que j'apprécie le « wow ». Ça, c'est un retour de fou qui vient d'arriver, mais l'attaque au filet, moi, je pense qu'il amène un petit peu l'excitation que tout le monde veut voir.
OK, je te demande, dans notre top 3, ben là, tu me l'as dit tantôt, mais Sabalenka, Goff ou Swiatek?
Je pense que je vais y aller avec Sabalenka puis Goff direct après.
Ouais. Mais en même temps, tu peux dire que toi, tu es plus un style de joueuse comme une Sabalenka, mais que tu pourrais préférer voir ou regarder jouer une fille comme Coco Gauff ou Swiatek, qui est très posée.
Oui, Coco Gauff, moi, je trouvais qu'elle était une joueuse complète, mentalement, physiquement, tout était là. J'apprécie. Encore une fois, je suis trop neutre, mais j'apprécie les différents styles que j'ai vus cet été. Puis, c'est sûr que, tu sais, je pense que je vais y aller Sabalenka, Gauff, puis on va y aller 1-2-3 comme ça. Je vais prendre une position.
Si tu as l'occasion de jouer au tennis, t'aimes-tu mieux sur terre battue, gazon ou sur verdure?
Écoute, j'ai pas eu la chance de jouer sur toutes les surfaces. Je suis pas de la pro des tennis non plus. Là, je veux pas dénigrer aucun sport, là, mais pickleball a été introduit dans ma vie un peu cet été, puis j'ai apprécié ça. Mais je te dirais que non, sur la surface, ben, pas normale, là, mais j'ai pas eu la chance
qu'on appelle.
J'ai pas eu la chance de jouer sur gazon ou terre battue, donc je vais devoir dire.
Je vais t'inviter chez nous parce que j'ai un terrain en terre battue. Ben, ici, c'est pas de l'argile, on s'entend. Là, c'est de la petite roche.
Wow.
Parce que, wow! Non, ben, c'est impossible ici. Il faudrait aller à Roland-Garros.
Ouais, c'est ça. Non.
Ça pourrait être un beau voyage à faire.
Ah, je veux m'inviter pour faire une chronique là-bas avec femme de hockey, femme de sport. Moi, je suis dame.
Ben, écoute, on se met là-dessus.
C'est bon.
Eh bien, Karel, merci d'être venu de jaser un peu tennis, les parallèles. Ça a été bien agréable. Fait qu'on va suivre les développements de la PWHL. Tu vas être occupé, là, c'est la période des transactions et tout, là, pour pouvoir signer des contrats pour les filles. Fait que bonne continuité dans ton hockey.
Merci à toi. Puis encore une fois, je dis à tous, je suis une joueuse de hockey, j'apprécie le tennis. Allez voir les autres sports, allez encourager. Vous allez apprécier les différents types de games qui sont joués dans différents sports, que ce soit masculin ou féminin. Il y a quelque chose à apprécier là-dedans. Allez voir, parce que là, les services se rapprochent si on veut voir du power du côté des dames. Puis les échanges évoluent même du côté des hommes. Donc, le 8, 9, 10 échanges avant qu'il y ait un point, ou 12, 13, 14, ben moi, je capote quand il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là, parce que ça me ramène dans des sports de compétition. Fait que allez-y, puis merci beaucoup de m'avoir ici. C'est différent. Le tennis, c'est, comme je l'ai dit, je ne suis pas l'experte en ce monde, mais j'aime ça parler des sports. Fait que tu fais un superbe boulot à nous amener dans des plateformes différentes. Donc, merci à toi, Isa.
C'était un plaisir. Merci, Karel.
Merci une fois de plus à Isabelle Etier pour cette entrevue bien intéressante avec Karel. L'entrevue. Hugues, ben, Nicolas Richard n'est pas là, évidemment, il était aux Alouettes, on en a parlé en début d'épisode, il prenait l'avion pour revenir, alors il n'est pas des nôtres, on le salue. Mais ça voudra dire que c'est toi qui auras le lourd mandat de terminer en beauté cet épisode de Sur la ligne. Je rappelle, il est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et aussi à BPM Sport tous les lundis soirs, en reprise à quelques reprises durant la semaine. Alors, je te cède le mot de la fin, mon cher.
Et Nicolas Richard qui nous a communiqué que son tout nouveau manteau d'hiver de Costco sentait déjà le cigare et le champagne du vestiaire des Alouettes hier soir. Mais je pense que son manteau vaut déjà plus que ce qu'il a payé chez Costco avec cette victoire des Alouettes en Coupe Grey. Ceci dit, on lui souhaite un bon retour de Toronto à notre ami Nico. Et en même temps, Alex, bon tennis à toi, bon tennis tout le monde.